persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Radio Saperlotte. Radio Saperlotte, c'est la nouvelle émission autour des livres de Radio Phoenix, portée par une équipe de bénévoles de Saperlotte. Si vous habitez à Caen-la-Mer, vous connaissez peut-être déjà l'association Les Deux Librairies Solidaires, Sociales et Inclusives. La première librairie se trouve pas très loin de Radio Phoenix, au 95 bis rue d'Hérouville, à Caen, juste à côté de l'Institut Le Mobile. La deuxième se situe au centre commercial Val-Saint-Clair d'Hérouville-Saint-Clair. Dans ces librairies, on peut retrouver des livres d'occasion, des DVD, des affiches, des vinyles et tout ce dont vous avez besoin à moindre coût dans une démarche d'économie circulaire. Tout cela, ce sont des dons qui nous viennent des particuliers, de bibliothèques et de partenaires. Cela fait un an que l'association Saperlotte existe et 5 mois que la librairie a ouvert ses portes à Caen. Aujourd'hui, Saperlotte fédère une cinquantaine de personnes bénévoles qui partagent l'amour du livre, de la lecture et de la solidarité. Pour partager cette passion en dehors de la librairie, tous les mois, nous vous donnons rendez-vous sur les ondes de Radio Phoenix pour présenter les coups de cœur de lecture autour d'une thématique bien précise. Pour la première émission, nous avons choisi la solidarité. Déjà, c'est une valeur forte du projet associatif, mais aussi parce qu'en ce mois de novembre a lieu le Festival des Solidarités du 14 au 30. Un événement national porté par des structures associatives à l'échelle locale et plus de 8 événements sont présents sur Caen. Et pour en parler, on retrouve autour de la table Quentin. Quentin, toi tu es passionné de musique, tu joues du piano, de la guitare et tu dévores toutes les autobiographies de musiciens, des chanteurs, des chanteuses et les livres documentaires. Autant dire que sur le rock, tu en connais tout un rayon.
Bonjour.
Olivier, toi, ton dada, c'est les polars, ce qui te passionne, c'est de comprendre comment un auteur construit un univers et ton défi, démasquer l'auteur du crime avant la dernière page. Olivier, tu es le père Cluedo de cette équipe.
Oui, eh bien, bonjour, et puis nous allons en reparler un petit peu plus tard.
Véronique, toi, tu es une lectrice compulsive, tu aimes commencer 10 bouquins en même temps et en finir 3. Tu le dis toi-même, si tu n'as pas 15 bouquins autour de toi, tu ne te sens pas très bien. La bibliophile du livre autour de cette table, c'est toi.
Bonjour.
Et enfin, Clément, moi-même, le lecteur fatigué, toujours à la recherche du One Piece, je suis ravi d'animer cette première émission Radio Saperlotte sur Radio Phoenix. Radio Saperlotte, première émission, c'est parti! On le rappelle, pour cette première émission, on a choisi de vous présenter des coups de cœur lecture autour de la solidarité. La solidarité, on en a toutes et tous une définition propre. Mais pour qu'on en parle sur les mêmes bases, Véronique nous a travaillé une définition.
Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept fondamental pour la vie en société, la solidarité. Être solidaire, c'est aider les autres, partager et agir ensemble face aux difficultés. Cependant, la solidarité n'a pas toujours eu la même forme. Elle a évolué au fil du temps, passant de l'entraide dans les communautés anciennes à une valeur universelle inscrite dans nos institutions modernes. Je vais donc vous montrer comment la solidarité s'est transformée à travers 3 grandes périodes. La solidarité traditionnelle dans les sociétés anciennes et religieuses, la solidarité moderne avec la révolution industrielle et les États modernes, la solidarité contemporaine dans notre monde globalisé et numérique. Voyons dans un premier temps la solidarité traditionnelle. Dans les sociétés anciennes, la solidarité était avant tout communautaire. Les individus vivaient dans des familles élargies, des tribus ou des villages, où l'entraide était essentielle pour survivre, cultiver, chasser, se défendre. Dans ces sociétés, chacun dépendait des autres et la solidarité se manifestait par des gestes simples. Partager la nourriture, s'occuper des malades, des enfants, aider à construire une maison. Les religions ont aussi joué un rôle important. Dans le christianisme, la charité est un devoir moral. Aime ton prochain comme toi-même. Dans l'islam, la zakat, l'aumône, fait partie des 5 piliers de la foi. Et puis le judaïsme, le bouddhisme, on retrouve également cette idée d'aider les plus démunis. La solidarité à cette époque est donc locale, religieuse et communautaire. Abordons maintenant la solidarité moderne. Avec la révolution industrielle au XIXe siècle, les sociétés changent profondément. Les gens quittent les campagnes pour travailler en ville, dans les usines. Les inégalités explosent et beaucoup vivent dans la pauvreté. Face à ces injustices, la solidarité devient sociale et politique. Les syndicats, les associations ouvrières apparaissent pour défendre les droits des travailleurs. Les États commencent à créer des systèmes de protection sociale, assurance maladie, retraite, chômage. En France, on parle de solidarité républicaine. L'État doit protéger ses citoyens. La solidarité devient alors institutionnelle, elle passe de la morale à la loi. Et terminons maintenant la solidarité contemporaine. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la solidarité prend de nouvelles formes. Avec la mondialisation, les causes solidaires dépassent les frontières. Aide humanitaire, ONG, collecte internationale. Internet et les réseaux sociaux permettent une solidarité numérique. On soutient une cause en ligne, on fait des dons, on participe à des campagnes de sensibilisation. Néanmoins, de nouveaux défis apparaissent. Les crises climatiques, les pandémies, les guerres ou les migrations demandent une solidarité mondiale. En même temps, on observe parfois un repli individuel, une perte de lien social. Heureusement, la jeunesse et les moins jeunes s'engagent. Manifestations pour le climat, bénévolat, projets solidaires et locaux. La solidarité d'aujourd'hui est donc globale, connectée et citoyenne. Pour conclure, la solidarité a traversé les siècles en s'adaptant aux sociétés, d'abord instinctives et religieuses, puis sociales et politiques, enfin globales et numériques. Elle reste une valeur universelle, essentielle pour faire face aux crises actuelles. Être solidaire, c'est reconnaître que nous sommes tous liés, que ce soit dans un village, une nation ou sur la planète entière. La solidarité est une façon de vivre. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.
Merci Véronique pour cette définition de la solidarité. Maintenant, place aux recommandations avec Olivier qui va nous parler de la solidarité à travers sa sélection de livres.
Bonjour à tous. Voilà, mon livre s'appelle « Mon chien stupide » de John Fante. Là où justement, on va différer un petit peu, sachant que la solidarité, c'est important. Mais que se passe-t-il quand c'est la non-solidarité au sein de la cellule familiale, à une époque où le rêve américain commence sa déliquescence? John Fante est un écrivain et un scénariste américain, né le 8 avril 1909 à Denver et mort le 8 mai 1983 à Los Angeles. Il n'a connu la célébrité que sur le tard, grâce à son roman semi-autobiographique « Demande à la poussière ». Il est considéré comme le précurseur de la Beat Generation et comme le premier auteur à avoir dressé le portrait des romanciers de Los Angeles en mal de reconnaissance. Pour en revenir à l'intrigue de cet ouvrage, on va le résumer succinctement, à savoir Henri Molise, auteur quinquagénaire, raté et désabusé, qui n'a qu'une envie, tout plaquer et s'envoler loin de sa famille qui le rend fou. Son rêve, retrouver son Italie natale, berceau de ses aïeuls, d'une bonne cuisine, loin des stéréotypes des USA, entre autres, et de la baie de Santa Monica, où il a son domicile. Malgré l'affection d'Henri pour la bête, sa femme, Ariette, et ses quatre enfants, Dominique, Tina, Jamie, Denny, restent méfiants à l'égard de ce canidé, cet Akita, car savoir c'est une race japonaise, qui est présumée indomptable. Sa progéniture est injuste et un talent de plus en plus incertain du personnage central se fait sentir, d'où le cynisme salvateur du principal protagoniste et ses envies de fuite. Mon chien stupide est une sorte de tragicomédie de la crise individuelle. C'est lié aux crises d'adolescence à retardement, le démon de midi, le couple en déliquescence et la crise de la cinquantaine, bref, la middle life aux États-Unis. Et aussi une absence de solidarité au sein de la cellule familiale. C'est là justement où c'est intéressant. Donc pourquoi j'ai aimé ce livre? Eh bien, l'ambiance qui se détériore au fil des relations familiales et le chien stupide et la truie qui s'appelle au départ Emma, qui ensuite va s'appeler Marie, à la fin, qui montre un nouveau départ, qui montre que tout est possible malgré les problèmes de la vie. Donc la moralité, c'est que rien n'est perdu. Pourquoi je le recommande? Parce qu'il y a beaucoup d'humour et de réalité dans le contexte des années 70-80, et voir la lucidité lorsqu'on arrive à un certain âge, justement la cinquantaine pour ce personnage principal, où l'on commence à faire le bilan de ses succès, de ses erreurs, et la vie suit son cours. Voilà. Si vous voulez, je vais vous lire un petit passage pour vous montrer justement ce que le chien représente au sein de la famille. Allons-y. Comment le leur reprocher ? Regardez cette horrible bête. Sa place n'est pas dans un quartier respectable. Avez-vous vu ce qu'il a fait à Hellwood ? Langue pendante, le souffle court et couvert de poussière, stupide s'était assis pour regarder Madame Epstein. « Je vais le signaler à qui de droit ?» elle a dit en repartant vers sa maison. Elle s'est arrêtée sur le seuil pour appeler ses chiens. « Hellwood, Gracie, rentrez immédiatement !» Ils se sont précipités dans la maison. Avant de fermer la porte, elle m'a gratifié d'un regard assassin. Nous nous sommes penchés au-dessus du stupide qui léchait ses pattes et se nettoyait après la bagarre. Une poignée de fourrure manquait sous son poitrail, mais il n'était pas blessé. Je lui ai asséné une tape admirative sur le ventre. « Ah, ce gaillard sait se battre !» j'ai dit. « Tu crois qu'il aurait fait le poids contre Rocco ?» « Je n'irai pas jusque-là, j'ai dit. Mais il a mis deux boxeurs en déroute, il promet. C'est un pédé, papa. César aussi était pédé, et Michel-Ange. Dommage qu'on ne puisse pas le garder. Ta mère en ferait une jaunisse. » À mesure que nous descendions la rue, le système d'alarme canin nous précédait avec une parfaite efficacité. Le collet des hammers, les beagles hystériques des frôlés, le doberman des borchards, un concert de chiens, petits et gros de part et d'autre de la rue qui protestaient contre l'intrusion de l'étranger sur leur territoire. Ils le voyaient entre Jamie et moi qui tenions son collier. Ils humaient l'odeur de la bête venue d'ailleurs. Sa présence scandaleuse les rendait fous de rage. Certains rebondissaient le long des clôtures grillagées, d'autres battaient en retraite dans des garages ou sous des porches, où ils lançaient à plein poumon des hurlements qui attiraient aux fenêtres des femmes et des enfants, lesquels se demandaient anxieusement derrière les rideaux quel monstre s'était aventuré à Van Point Dun, pour garder l'accent de départ. Bref. Langue pendante et tête haute, stupide appréciait ses marques d'attention à leur juste valeur et tirait sur son collier comme un cheval pressé de s'élancer hors du portillon de départ. Quand nous nous sommes passés, devant la maison des Beechlow, leur grand danois couleur fauve a bondi sur la clôture et s'est fendu de quelques abattements asthmatiques. Stupide a retroussé les babines pour exhiber ses crocs blancs menaçants. Voilà, c'est court, mais ça permet de voir qu'il n'y a pas que le chien au cours de cette histoire, mais il y a des passages qui sont quand même cocasses. Voilà.
Merci Olivier pour ce court extrait. Et Véronique va nous parler de son Panthéon.
Eh bien oui. J'avoue que des livres sur la solidarité, il y en a énormément. Et donc j'ai voulu plutôt partager mon petit Panthéon personnel qui m'a extrêmement marqué depuis mon adolescence. Et vu mon grand âge, je pense avoir toute légitimité pour parler de ce point de vue. Eh bien tout d'abord, Les Misérables de Victor Hugo. Pourquoi les misérables ? Eh bien, l'histoire de Jean Valjean, sauvé par un évêque, et il consacre sa vie à aider les autres. C'est une œuvre qui, à la fois, est sociale, politique et humaniste. Elle dénonce la misère et les injustices de la société française après la Révolution. Bien évidemment, vous trouverez ce livre en poche. J'ai également envie de partager Germinal d'Émile Zola. Écrit quand même en 1885, roman sur la lutte des mineurs pour leur dignité, Zola dénonce l'exploitation du peuple et montre la naissance du mouvement solidaire des ouvriers. Je terminerai par un auteur américain, Les raisins de la colère, 1939, John Steinbeck. Durant la Grande Dépression en Amérique, la migration d'une famille vers la Californie, la survie passe par la solidarité entre les plus démunis. Et puis, puisque j'ai encore le micro, j'en profite, un dernier roman, David Copperfield, de Charles Dickens, 1850. Livre qui dénonce la misère et l'exploitation des enfants dans l'Angleterre victorienne.
Merci Véronique pour cette présentation de ton Panthéon. Maintenant, nous allons passer à la dernière présentation. Donc, c'est un coup de cœur que j'avais. C'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt. Il est paru le 13 juin 2001. Ce livre, ça a été vraiment un coup de cœur à l'époque et même maintenant, parce que j'adore relire à chaque fois les livres d'Éric Emmanuel Schmitt au moins une fois par an. Ce qui raconte l'histoire de Moïse, un petit jeune, et de sa rencontre avec un épicier. Donc on voit à travers toute cette temporalité, tous leurs échanges, tous leurs regards, et tout ce qui est dit et ce qui est non dit, comment on peut aider les autres et comment on peut aider son prochain d'une manière assez simple, juste en souriant à la personne et en l'accueillant dans une épicerie. Bon, évidemment, comme dans le livre, on ne recommande pas le vol à l'étalage, mais après, ça pourrait être une bonne indice pour développer sa solidarité. Ce roman est vraiment un coup de cœur puisqu'il permet de redécouvrir la solidarité, de redécouvrir la paresse. C'est une éloge à la paresse, c'est un éloge au voyage souple, au voyage qui dépayse et qui enrichit à la fois. Et donc je vous conseille, si vous aimez Erik Emmanuel Schmidt ou si vous aimez vous dépayser, je vous conseille la lecture de Oscar et la Dame en Rose pour vous plonger dans l'univers d'Erik Emmanuel Schmidt. Pour clôturer cette émission Radio Saperlotte, nous allons vous présenter l'agenda du mois de novembre. Tous les événements que je vais présenter auront lieu exclusivement dans notre librairie cannaise au 95 bis rue d'Hérouville. Le 19 novembre, on a un atelier de lecture pour enfants à partir de 14h. Le 19 novembre également, un apéro bénévole qui permet de rencontrer les différents bénévoles, de rencontrer également le fondateur et de boire un petit coup aussi, évidemment. Le 21 novembre, on a un café philo à partir de 19h, toujours sur inscription et toujours à la librairie cannaise, où il y aura un format quiz et puis après un débat sur le néant. Le 26 novembre, nous avons un atelier de lecture à partir de 14h30, toujours réservé aux enfants. Donc à chaque fois, il suffit seulement de s'inscrire sur l'adresse mail de Saperlotte. Et pour clôturer l'agenda de novembre, nous avons le 26 de ce mois-ci, un atelier pochette à partir de 19h, fait par le fondateur de l'association, Baptiste. Nous vous attendons nombreux chez Saperlotte, dans nos librairies cannaises et hérouvillaises. C'est déjà la fin de ce premier numéro de Radio Saperlotte. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site phoenix.fm ou sur votre plateforme d'écoute. On vous donne rendez-vous le mois prochain, en décembre, pour une nouvelle émission autour de la littérature queer. Très belle journée et à bientôt sur Radio Phoenix.
À bientôt.
À plus.
À bientôt.